nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il faut bien des putes, sinon Paris ne serait plus Paris. Et le non-remords de la fille à la fin, elle n'a rien fait. Elle n'a rien à se faire pardonner. C'est la faute des curés. Donc, une fois qu'il a fini le livre, il le trouve très bon. Il le trouve tellement bon qu'il en a oublié l'auteur et le pourquoi il le lit. En regardant sur la couverture le nom de l'auteur, il se souvient de tout. Mon fils est un sacré écrivain. Il soupire et se dit encore, à cause de ces sacrés curés, je vais obligé de lui demander de détruire son œuvre. Je ne peux pas faire autrement. Les curés sont propriétaires d'une grande partie des terrains de la ville. Je ne pourrais plus faire construire d'immeubles ou d'en acheter. Je ruine la carrière de mon fils. Je lui demanderai, pour qu'il se fasse pardonner, d'écrire un livre sur un saint et de le dédier à son éminence. Je vais me renseigner si ce livre peut être édité dans un pays d'Amérique sous un faux nom. De toute façon, je ne vais pas brûler cet exemplaire. Je vais le cacher dans ma bibliothèque. Il est allé mettre le livre dans la bibliothèque. Il ne doit pas tarder à venir. Je vais l'attendre au salon. Il va au salon. Là, il retrouve sa femme assise qui brode près de la fenêtre. Il va s'asseoir près d'elle. Elle lui dit « Il paraît que notre fils a écrit un roman dont tout Lyon parle. L'avez-vous lu ?»«
Oui. » »«
Vous me le prêtez, votre exemplaire. Je ne l'ai pas lu. Et il est à lire. Il paraît qu'il y a des choses tout à fait remarquables. Qu'en pensez-vous ?»«
Il y a des choses, oui, mais malheureusement, il nous met dans l'embarras. » J'étais convoqué par son éminence le primat de Gaulle. Il est furieux. Il veut que notre fils détruise ce livre. C'est-à-dire qu'il donne l'ordre de ne le plus faire éditer.
Elle hausse les épaules et lui dit « De quoi il se mêle, celui-là ?» On a entendu la sonnerie de la porte. Des pas.
Constantin se lève et dit « Ça doit être notre fils !»
Et il sort du salon. Il trouve dans le couloir son fils.
« Je vais te parler. Viens avec moi dans le bureau. »
Ils y vont. Et s'assoient.
Voilà, j'ai été convoqué par son éminence.
Et il lui dit tout ce que lui a dit le primat de Gaulle.
Je te demande donc, c'est de faire ce qu'on te demande de faire.
Et si je refuse?
Tu nous mets à la ruine. Personne ne voudra faire affaire avec un homme qui a un fils excommunié. Et les terrains appartiennent presque tous au curé.
Le père soupire et continue.
J'ai lu ton livre, il m'a plu. Il est même plus que très bien. Écoute, tu fais ce que dit de faire ces corbeaux. Mais moi, je vais me renseigner si nous ne pouvons pas faire éditer ton livre à l'étranger.
Merci, père.
André, encore une chose, c'est... Pour te faire pardonner, c'est d'écrire la vie d'un saint et de dédicacer au primat.
Charles-André fait la grimace.
Je supporte très fort dans ce genre de choses. Mais je trouverai bien un saint.
Et pour les emmerder, je trouverai un saint qui n'a jamais existé, comme saint Christophe.
Fais comme tu veux, mon petit. Et pour ton livre,
je ne peux que dire à mon éditeur de l'arrêter.
Fais-le.
Bien. C'est ce que fait le libraire et les libraires ont reçu l'ordre d'enlever de leur vitrine ce livre immoral. Le préfet et le maire sont satisfaits que la chose se soit terminée sans qu'il y ait eu injure. Ils ont remis ici le primat de Gaulle, grand diplomate. Le livre continue bien entendu à se lire car il peut se prêter. Mais personne n'en parle, surtout pas à la famille. Tout est entré dans l'ordre. Le père est allé voir des consuls et ambassadeurs de différents pays d'Amérique, mais là-bas ils sont encore plus puritains qu'en France. Charles-André s'est fait une raison. Et puis un jour, un éditeur helvétique suisse est venu le voir pour lui proposer de lui éditer son livre. Parce qu'il pense être vendu sous le manteau en France et ailleurs, sous un autre nom d'auteur et de titre d'ouvrage. Charles-André a accepté, il a reçu une grosse somme et en recevra à chaque nouvelle réédition. On dit que le livre édité comme ça, derrière la banque, en librairie, se vend très bien, mais chut!
La morale est sauve, la famille et ses affaires aussi. Charles-André continue à travailler chez le libraire. Il est estimé surtout depuis l'apparition de son roman. Le soir, il travaille à Biographie de Saint-Vincent en y mettant beaucoup de couleurs du temps. Cette œuvre qu'on lui a demandée, a donc, il a choisi le saint un peu au hasard. Un matin, en allant à son travail, il croise une de ses sœurs et ça lui a donné le déclic. Donc cette œuvre, qui était une corvée, est devenue un plaisir. Il est allé aux bibliothèques se renseigner, chez les sœurs Saint-Vincent, chez les prêtres. Il a fait une recherche approfondie du temps, des mœurs, de la politique. Une fois qu'il a eu tout fait, il s'est mis à écrire. Et au fur et à mesure qu'il a écrit l'époque, le saint a vécu, s'est mis à vivre lui aussi. Il l'a tellement fait revivre qu'il lui semble, à certains moments, d'être Saint-Vincent. Ses luttes, sa passion, ses peines, ses joies, son époque sont devenues lui. C'était lui à lui. Malgré lui, il se passionne pour ce travail et chaque jour il a hâte d'être au soir pour écrire. On peut dire que c'est qu'un miracle s'est accompli. D'une corvée, c'est devenu un plaisir suprême. Vous me direz, à part ce travail d'écriture, que fait Charles-André? Pas grand-chose. Et on peut même dire rien. Mais, et son besoin amoureux, physique? Il y a une période où il s'en passe facilement. Bien entendu, de temps en temps, se le démange. Alors, d'une main habile, dans les toilettes, en 5 minutes, c'est fait. Et l'opium. Eh oui, et l'opium. Eh bien, son corps, aidé par le cerveau occupé, une bonne nourriture, n'en a plus besoin pour le moment. Bien sûr, s'il sentait son odeur. Et Apolline, la pauvre Apolline, elle aime Jules, qui lui ne fait pas attention à elle. Fait pas attention à elle comme elle le voudrait. Elle peut pas s'empêcher d'aller tous les jours dans sa chambre, le caresser, lui donner des baisers. Non. Par contre, elle sent que Jules ne ressent rien, ou pas assez, de ce qu'elle aimerait qu'il ressente pour elle. Elle va 3 fois par semaine à la chorale, apprendre ses chansons chez elle. Et dans sa chambre, elle dessine des visages, surtout celui de Jules. En fait, Elle s'ennuie à en mourir, elle aimerait partir. Ah, si elle avait de l'argent. Elle tenterait la chose en Angleterre. L'opium lui manque énormément, mais elle ne peut pas en avoir à cause du manque d'argent. Et où le faire? Alors de temps en temps, surtout le soir, elle imbibe un coton d'éther ou, si elle n'a seulement pas d'éther, d'alcool à brûler. Pour ne pas infecter la chambre, elle ouvre la fenêtre et en prend juste ce qu'il faut. Et Jules, oui, et Jules. Eh bien lui, il est bien sage, suit ses cours, écrit, vit en solitaire. Pourtant, bien des étudiants aimeraient faire sa connaissance, car il est très estimé par ses écrits délicats et qui, malgré tout, parlent de choses dures et troubles. mais Jules veut rester seul, car il se sent mal dans sa peau. Il a l'impression qu'il couvre quelque chose de monstrueux et qu'il ne veut pas le savoir ou le réveiller. Malheureusement, la nuit, il a des rêves qui lui prouvent que la bête est bien en lui, car son esprit sans défense ne peut l'empêcher qu'elle sorte. Et malgré lui, c'est de cette bête que son œuvre se nourrit de plus en plus. Mais pour le moment, il peut la cacher d'artifice, car il ne veut pas que l'on sache ce qu'il cache derrière ce visage lumineux et beau. La mère, elle, est tellement occupée en affaires de la maison, à sa famille, à ses relations, soirées, etc., qu'elle n'a pas le temps de penser à elle. Ou plutôt, elle ne peut penser à elle que du point de vue extérieur, à cause de la représentation qu'elle doit se donner et qui fait partie de ses obligations. Heureusement, car elle verrait que sa vie n'est qu'une vie superficielle, qu'elle n'a jamais vraiment pensé à elle, faire quelque chose vraiment pour elle, que le temps a passé bien vite à ne rien faire de vraiment vrai. Elle pourrait se demander si elle a été aimée. Elle pourrait penser à la vieillesse. Elle pourrait penser à la mort. Mais heureusement pour elle, elle n'a pas le temps de penser à tout ça. Donc, elle ne peut penser et savoir qu'elle est malheureuse. De pouvoir se dire malheureuse de ce qu'elle est devenue, de s'être mariée à cet homme froid, d'avoir des enfants égoïstes, d'avoir gâché sa vie, et que la mort s'approche. Et Constant, Constant lui. Eh bien Constant, lui, il fait des affaires. Il n'a que ça dans sa vie. Sa femme, il l'aime bien, mais il ne la voit plus. C'est devenu un accessoire de luxe. La représentation du bien-être de sa vie privée et la représentante publique de sa famille. Quant à ses enfants, il a été déçu par eux. Il s'attendait à ce qu'ils soient plus sérieux. Qu'au moins, il pense à prendre la succession. Que ses fils écrivent, ça ne le gêne pas, mais ce n'est pas une chose qui fait entrer l'argent. Quant à sa fille, une espèce de suffragette qui en plus rêve de faire du théâtre, cela les désole. Heureusement qu'elle est jolie, peut-être que mariée, elle deviendra plus sage. Constantin n'a pas de vrais amis, ni de vraies connaissances. C'est difficile lorsqu'on a des affaires de se faire des amis. Mais cela ne le peine pas, car il n'a pas le caractère à vouloir s'épancher sur les épaules d'un ami. Sa vie, il ne l'a pas choisie, elle s'est faite de lui-même. De l'argent reçu de son père, il a eu le bon choix pour le placer, et la sagesse, car il aurait pu le dépenser en fredaine. Mais il avait le respect de l'argent, car il avait vu son père suer pour en gagner, suer à la ferme, suivant le caprice du temps, qui vous rendait plus riche ou plus misérable. C'est en voyant cela qu'il a toujours voulu placer son argent dans des placements sûrs. Et qu'est-ce qui est le plus sûr que l'immobilier? Donc sa vie s'est faite d'elle-même, autour de sa vie professionnelle. Et pas un instant, il a regretté sa façon de vivre. Du point de vue sentimental, il a toujours été solitaire et aime la solitude. Avec sa famille, c'est comme s'il était seul, car ils font partie de lui. Sexuellement, la chose ne l'a pas vraiment intéressée. Très vite, après quelques fredaines de jeunesse, il s'est aperçu que les femmes étaient toutes pareilles, qu'on était toujours déçu par elles, car on croit toujours trouver quelque chose de différent, elles se ressemblent toutes. Et quant à l'acte lui-même, il a toujours trouvé que c'était ridicule. Le temps passe. Un après-midi, qu'il est à son bureau, l'on frappe à la porte. Entrez. C'est le domestique. Monsieur, il y a une dame qui désire un entretien avec vous.
Qui est cette dame?
Madame Denise Sommet.
Qu'est-ce qu'elle veut?
Je ne sais pas, monsieur. Elle m'a dit que c'était confidentiel. Constant soupire et dit...
Faites-la entrer.
Une demi-seconde après, on frappe à la porte.
Entrez.
Le domestique a fait entrer Denise en manteau rouge, chapeau marine, maquillée à outrance. Constant se demande ce que cette pute vient faire chez lui.
Vous avez demandé à me voir? Entrez, madame, et asseyez-vous. Je vous écoute.
Voilà, monsieur, c'est très délicat. J'ai fait la connaissance de votre fils à Monte-Carlo, lorsqu'il séjournait. Et nous avons sympathisé, c'est moi qui d'ailleurs lui ai trouvé du travail. Nous étendons bien, donc de fil en aiguille, nous avons eu un penchant l'un pour l'autre. Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai accepté son amour, lui et... Puis présenté mes enfants et ils ont sympathisé ensemble. Surtout mon aîné. Ils étaient très bien ensemble. Nous sommes fiancés devant tout le monde, ma famille et tout, quoi, les personnes que nous connaissions. Nous étions comme mariés. Et je dois avouer que tout était prêt. Un soir, un moment d'égarement, vous comprenez. Donc voilà. Et une fois que tout était prêt, il m'a dit qu'il partait en France et me laissait, ne me voulait plus. J'étais déshonoré. Il s'était affiché avec moi et ma famille et maintenant. Alors j'ai été voir un avocat, il m'a dit que je pourrais demander des dommages et intérêts. Constant lui laisse parler, il est furieux et lui dit.
Qu'est-ce qui me dit que la personne qui vous a séduite est mon fils?
Mais monsieur, j'avais son nom et l'adresse de ses parents.
Quelle preuve avez-vous qu'il vous a séduite et demandé en mariage?
Des témoins, mes enfants, directeur de l'école où nous exercions, et aussi des lettres passionnées qu'il m'écrivait. Elle fouille dans son sac et lui montre un paquet de lettres.
Regardez,
il prend une lettre.
Et l'ouvre pour voir si c'est bien l'écriture de son fils.
Il voit en gros que c'est une lettre intime, mais ne cherche pas à savoir ce qu'elle dit. C'est bien l'écriture de son fils. Prenez, madame. Elle remet la lettre dans son sac. Que voulez-vous exactement ? C'est-à-dire que je suis une femme honorable. Je l'aime, voyez-vous, votre fils. J'aimerais que les choses se passent le mieux possible. En m'épousant, comme il me l'a promis, le père lui dit, « Ce que vous me dites là, madame, est tout à fait respectable, mais c'est un peu délicat. Vous voulez entrer dans une famille qui ne vous connaît pas. Et puis, est-ce que mon fils veut encore se marier avec vous ?» Elle lui répond, « Pour ce qui est de ma respectabilité et de ceux des miens, vous pouvez faire une enquête.
Vous avez des biens ?»
Non, pas vraiment.
Combien d'enfants ?
Deux.
Quel âge ?
D'un âge où on commence à se débrouiller seul. Le père surpris.
Veuve ?
Oui.
Je doute pas de votre franchise, mais il me semble qu'il y a une telle différence d'âge avec mon fils.
Elle lui dit, à peine 7 ans. Le père est surpris. Il croyait 25. Il lui dit,
« Bon, ma foi, je ne peux rien faire pour vous, à part en parler à mon fils. Et s'il refuse ?»
Elle lui dit, « Je demanderai des dommages et intérêts, et peut-être le forcer à se marier avec moi. » Il m'a compromise. J'ai des témoins.
« Bien, bien, bien. Je crois, mais vous n'êtes pas de nationalité française. »
« Oui, mais je le suis par mon père, donc je peux recourir à la justice de ce pays. » Le père dit,
« Comme la chose est bien faite. Vous avez autre chose à me dire ?»«
Non, monsieur, à part que vous devez me donner rendez-vous pour la réponse.
Je le ferai, vous ferai savoir. Vous êtes dans quel hôtel ?»«
Le Savoie. » »«
Bien. » J'en parlerai à mon fils.
Il se lève et l'aussi, il lui dit,
au revoir madame.
Il est furieux.
Dans quel pied il s'est mis cet imbécile. Elle va nous faire enchanter. Et nous risquons d'avoir un procès. Avec l'affaire du livre, ça va faire un bel effet.
Dès que son fils est revenu de son travail, il l'a mené à son bureau et lui a dit la visite de Denise. Charles-André est furieux et lui dit « C'est elle qui est allée dire au directeur de l'établissement que nous étions fiancés, sans me prévenir. Elle était toujours tournée autour de moi. »
« Mais tu as fait la connaissance de sa famille. »
« Oui, un guet-apens, je ne voulais pas. »
Alors que comptes-tu faire maintenant ?
Je ne veux pas l'épouser. J'en ai jamais eu l'intention.
Et tes lettres ?
Là aussi, c'est un engrenage. Je ne veux pas me marier avec une femme qui a 25 ans plus que moi et des enfants qui ont mon âge. Le père rajoute.
Elle n'a pas de fortune. Que pouvons-nous faire ? Si tu refuses, il va y avoir procès, scandale, frais, dommages et intérêts. Et avec le livre que tu as écrit, ils vont tous penser que tu es un immoral. Tu vois bien qu'ils vont tous être du côté de la salope. Ils vont être heureux de te faire mettre en bas de la société pour démontrer aux autres en leur disant « Voyez quel genre de personne s'attaque aux familles et à la religion. »
Le fils demande « Que faire ? » ?»«
Il n'y a que deux solutions. Ou tu te maries ?» Ou tu payes avec le déshonneur et tu entraînes avec toi la famille.
Jean-André lui dit, nous sommes perdus. Elle nous fait chanter pour entrer dans notre famille, pour avoir une vie tranquille. Nous allons être obligés de faire vivre elle et ses deux enfants. Ah, si elle pouvait mourir, quelle cargne, vieille toupie, père soupire. Malheureusement, ce genre de femme, c'est coriace, ça vivra centenaires. Elle joue, hôtel le Savoie. Elle a de l'argent, elle va en avoir, et ça prend à vivre luxueusement.
Le fils se lève pour faire les 100 pas.
Je vais tâcher de lui faire entendre raison.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.